Europe 1.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, avec les grandes voix qui se sont installées dans ce studio. Bonsoir à tous, je vous accueille évidemment. Charles Villeneuve, bienvenue. Bonsoir Philippe Gouillot et bonsoir à vous, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico.
Bonsoir.
Et
bonsoir.
Vous, les auditeurs, au 3921, appelez-nous, posez-nous vos questions, on vous répond en direct. On va aller prendre le pouls, évidemment, ce soir, devant la préfecture de police de Paris, où l'on a vécu en mi-journée ce drame, début d'après-midi précisément, avec cet assaillant qui a été tué, 4 victimes également. Jeanne Bergaoui, vous nous faites vivre là la situation à l'heure qu'il est. Comment cela évolue devant la préfecture ?
Eh bien écoutez, un peu plus de 5 heures après cette attaque au couteau, ici aux abords de la préfecture de police, la vie commence à reprendre son cours. La tension est en train de retomber progressivement. Il reste encore un important dispositif policier, mais le large périmètre de sécurité commence à être levé. Les voitures et les piétons peuvent à nouveau circuler aux abords du bâtiment et la bouche de métro cité, celle située juste en face de la préfecture, a été rouverte. Alors vous l'imaginez, cette attaque inédite suscite une très grande émotion, une incompréhension, surtout au moment du drame. À 13h, il y avait du public, des visiteurs venus effectuer des démarches administratives, mais en majorité des fonctionnaires et des personnels de la préfecture de police. Ils ont été confinés puis fouillés avant d'être autorisés à sortir au compte-gouttes. On les a vus sortir les traits marqués, encore sous le choc. Le choc, hein, c'est vraiment ce mot qu'emploient tous les employés auxquels on a pu parler. Aucun d'entre eux ne s'imaginait qu'un tel drame ne pouvait survenir au sein de leur maison, sur leur lieu de travail. Dès la mi-journée, une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place pour tous ceux qui en auraient besoin.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1 en direct devant la préfecture de police de Paris. Vous nous tenez au courant évidemment de l'évolution de la situation. On en parle avec nos grandes voix ce soir dans ce studio. 4 morts à la préfecture, 4 morts en plein jour dans cet endroit symbolique, dans cet endroit extrêmement gardé évidemment. L'assaillant qui a été tué dans la foulée. On est tous sous le choc ce soir. Charles Villeneuve.
Oui, parce que d'abord la préfecture de police, pour ceux d'entre nous qui connaissent un peu et qui ont travaillé notamment avec la direction générale de la police nationale, la direction, le préfet de police, parce que le DGPN n'a quasiment aucun pouvoir sur la préfecture de police. Ça, on en parlera un peu tout à l'heure, parce que c'est un état dans l'état. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Élysée veut le démanteler et veut le rattacher à la DGPN.
La Direction Générale de la Police Nationale, ça, pour nos auditeurs.
Oui, qui est basée rue des Saussées, dans le 8e arrondissement. Mais c'est une surprise en ce sens où... C'est une demi-surprise pour moi, si vous voulez. En ce sens où le cheval de Troie était à l'intérieur, de toute façon. C'était un agent qui s'est, donc, semble-t-il... On ne sait pas encore,
voilà,
ça n'est pas confirmé.
On est très prudent ce soir,
mais
évidemment,
ce
puisqu'on n'a pas
frappé,
d'éléments sur
il y avait un élément de présomption dans la déclaration du procureur de la République de Paris, c'est que tout de suite, il a dit qu'il était en liaison avec le parquet antiterroriste. Et moi, ça m'a interloqué immédiatement. Je me suis dit, bon, ben, c'est normal, on n'écarte pas dès le départ la piste, évidemment, terroriste. Elle n'est pas encore confirmée. Je pense, a priori, moi, qu'elle le sera. Parce que le couteau, déjà, était une piste de présomption. En général, c'est un instrument avec lequel un certain nombre de gens isolés frappent et commettent l'acte criminel. Et puis, en même temps, il a pu s'introduire dans la préfecture de police tout à fait normalement, puisqu'il travaille depuis 17 ans.
Puisqu'on y rentre avec un badge et qu'il n'a pas besoin, effectivement, de passer le portique. On est très prudent ce soir sur les motivations. La seule chose que l'on sait, qui est officielle désormais, c'est que l'assaillant a été converti à l'islam depuis 2 ans. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, quelle lecture vous faites ce soir en l'état des éléments dont on dispose et de cette situation? On a vu hier cette manifestation aussi inédite des policiers, aujourd'hui ce nouveau drame, Emmanuel Macron sur place très vite. On est dans quelque chose qui vous dit quoi là ce soir?
De toute façon, quelles que soient les causes ou les motivations de l'agresseur ou de l'assassin en question, il n'y a pas de bonne interprétation possible. Soit on est effectivement dans une attaque terroriste, et c'est une question qu'il faut poser, on ne peut pas écarter par nature. Moi, ça m'agace un peu parfois les gens qui veulent dire « par nature, écartons tout de suite ces pistes-là », comme si les Français allaient se jeter sur leurs voisins dans la rue au motif qu'il y aurait eu un nouvel attentat. Donc il faut savoir regarder les choses, mais effectivement avec prudence.
Avec prudence.
Après, ça peut être aussi juste la société du pétage de plomb, parce qu'on voit bien qu'on est dans une ambiance extrêmement délétère et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en situation, j'ai envie de vous dire, d'état psychologique fragile. Alors d'ailleurs, les deux se rejoignent, parce que les terroristes peuvent être aussi dans des situations de grande fragilité psychologique, voire psychiatrique. Il n'y a pas de bonne interprétation.
Pas de bonne interprétation, et ce n'est pas le sujet, évidemment, ce soir. Simplement, des faits qui sont extrêmement graves, qui se jouent en plein cœur de Paris, avec 4 victimes, dans un endroit, encore une fois, très symbolique, dans lequel, a priori, on n'imagine pas qu'il puisse se passer un tel événement. Philippe Gouillot.
Tout est possible partout. Non, ce qui frappe quand même, c'est effectivement qu'on ressent toujours cette sidération chaque fois qu'intervient quelque chose comme ça. Alors ce soir, il faut effectivement être d'une prudence totale. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je constate qu'on n'écarte pas, comme on l'a fait souvent dans des cas légèrement similaires, on n'écarte pas la piste terroriste. Souvent, on commence par dire « c'est un déséquilibré ». Là, on ne l'a pas dit. Donc, je pense qu'il faut regarder ça avec prudence, je le répète, mais aussi avec une grande lucidité. Il faut qu'on sache la vérité. C'est indispensable, parce que sinon, ça va alimenter un climat détestable. Et comme l'a fort bien dit Jean-Sébastien Ferjou, on est dans un état de dinguerie généralisée.
Et on le voit depuis les événements à Rouen, bien sûr. Donc la transparence est nécessaire, parce que effectivement le sentiment de défiance est aujourd'hui là, j'allais dire, en expansion un peu plus. On se retrouve dans un instant, les grandes voix, on va revenir là-dessus. Et puis sur les retraites, parce que ça y est, Emmanuel Macron reprend le flambeau. C'est reparti ce soir à Rodez. Votre grand journal du soir en direct sur Europe 1 jusqu'à 20h avec nos grandes voix dans ce studio ce soir. Charles Villeneuve, Philippe Gouillot, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et vous, auditeurs, avec vos appels et vos questions au 39-21. On va filer à Rodez, enfin sur le papier, parce qu'Emmanuel Macron va prendre la parole dans quelques minutes ce soir. Il va jouer en quelque sorte les prolongations du grand débat national en montant au front sur cette retraite explosive. Jean-Sébastien Ferjou, évidemment ce rendez-vous il a été poussé à la suite de la disparition de Jacques Chirac. L'exercice, là, il en raffole, Emmanuel Macron, être comme ça, devant les Français, être animateur de salle.
Peut-être pour deux genres de raisons différentes. D'une part, parce que c'est une méthode qui, finalement, lui a quand même plutôt réussi. La crise des Gilets jaunes était quand même extrêmement violente. C'était pas gagné, si on revient en arrière au mois de janvier dernier, qu'on imagine que Emmanuel Macron parvienne à se sortir de la crise de la manière dont il l'a fait. Oui, on peut comprendre que la méthode de la concertation, elle lui plaise. On peut imaginer aussi qu'il y a une espèce de forme de plaisir narcissique. On voit bien qu'il aime ça, il se kiffe lui-même. D'ailleurs, ça en est presque un peu gênant, cette espèce d'exercice d'onanisme qui se passe sous nos yeux. Mais indépendamment de ça, là où peut-être on est dans une configuration différente, alors d'une part, la crise des Gilets jaunes n'est pas éteinte. Elle est éteinte sous la forme de mobilisation qu'on a connue, mais le malaise social, il est toujours là. Après, sur les retraites, moi, ce que je vois dans les enquêtes d'opinion, c'est que les Français considèrent que cette grande concertation, elle ne sert à rien parce que c'est déjà décidé. Donc après, peut-être parviendra-t-il à convaincre à nouveau les Français que non, il est à l'écoute. Mais il y a un côté un peu étonnant, après avoir déjà confié à M. Delevoye le soin de consulter les partenaires sociaux pendant plus de 18 mois, il me semble, de revenir encore à une autre consultation. Ça ressemble au-delà même du fait qu'il aime parler avec les Français, ça ressemble quand même un peu à une manœuvre dilatoire avant les élections municipales pour ne pas avoir un dossier délicat à gérer.
Philippe Gouillot, c'est une manière de renouer avec la France profonde, cet événement à Rodez. Il va prendre sans doute la parole, ça va être fleuve, hein, comme il nous y a habitués après la crise des Gilets jaunes, sûrement plus de 3 heures, mais avec autant de cafouillages aussi, quand on voit la gestion de la crise de Rouen, quand on voit là cette crise des retraites, enfin en tout cas ce dossier des retraites, tous les cafouillages depuis des mois.
Oui, bien sûr. On se dit que pour Emmanuel Macron, c'est important qu'il y aille lui-même. Enfin, on a l'impression d'ailleurs, comme le disait Jean-Sébastien, que c'est aussi un exercice narcissique. Il doit penser qu'il faut qu'il fasse tout dans ce pays, comme avait dit le général de Gaulle. Et en fait, c'est l'acte 2 du quinquennat. Et comme l'écrit François-Xavier Bourmot dans Le Figaro, la pièce est la même. C'est-à-dire, c'est quand même un président qui maintenant s'occupe de tout et qui prend toutes les décisions et qui concentre tous les pouvoirs. Et là, on va le voir ce soir certainement.
Alors, il a tous les pouvoirs, Charles Villeneuve, au risque de se brûler les ailes parce que l'incendie social, il est tout prêt là, il guette. sur les retraites.
Mais d'abord, vous avez posé une question à Sébastien. Il faut savoir que les politiques répètent toujours ce qu'ils ont réussi au moins une première fois.
Le grand débat étendu.
Quels que soient les politiques, pas seulement Macron, tous avant lui et après lui répéteront toujours ce qu'ils ont réussi.
Ce qui est une tentation assez compréhensible quand ça marche.
Absolument.
On y retourne.
Nous-mêmes, hein, on a connu ça quand on était au lycée, même à la fac. Bon,
ou peu plus importe, récemment. Mais,
et là, si vous voulez, s'il fait bis repetita, c'est parce qu'il a besoin d'oser, de jauger, si vous voulez, ce que cette réforme est en train de susciter. Parce que petit à petit, tout le monde descend dans la rue, ou à peu près. Bon, même les professions libérales, les avocats, bon, pas en masse, c'est vrai. Et puis, il y a quand même les transports qui se sont mobilisés pas mal. Donc, il a besoin de savoir quels sont les dégâts réels que ça peut provoquer. Et c'est flou, quand même, pour lui, dans sa tête. Parce que tout est flou dans cette affaire. Petit à petit, on a déjà changé, de toute façon, d'objectif central. Hein, rappelons-nous, puisqu'avant, ce n'était pas du tout le même système de mesures pour la retraite. Et puis, deuxièmement, ce qu'il y a, c'est que c'est un flou sur le calendrier, c'est flou sur les suites du rapport Delevoye. Il l'amène avec lui, d'ailleurs, essayer de voir un peu comment il va faire. Donc, il engage le gouvernement, on ne le sait pas encore, même si le Premier ministre a dit « il faut quand même se concerter, je vais le faire avec les syndicats et tout ». Ça vous montre bien que ce n'est pas encore tout à fait clair, même pour le chef de l'État.
Alors qu'il négocie, Jean-Paul Delevoye, vous en parliez, Charles, et qui est membre du gouvernement désormais, qui négocie quand même avec les partenaires sociaux depuis 2 ans sur ce dossier. On se demande comment ça peut être flou, quand on voit aussi la réception de la rue depuis des semaines, et vous l'avez dit, Charles, les professions libérales, c'est assez inédit aussi de les voir dans la rue. Comment on peut se dire que c'est encore flou dans leur esprit ?
Bien parce que d'abord, c'est une réforme qui touche tout le monde et c'est une réforme extrêmement délicate, extrêmement dangereuse. On se souvient que des gens, je ne sais plus qui c'était, mais avaient dit que ça pouvait se faire sauter tous les gouvernements.
Mais rappelons-nous qu'Alain Juppé, finalement, a échoué et que le président de la République a dû dissoudre.
Et alors même que l'accueil avait été positif tout au début. Et là, on voit bien que ça se tend. Et donc Macron se dit qu'il faut qu'il aille sur le terrain pour mesurer aussi de quelle marge de manœuvre il dispose, quels sont les ajustements qu'il doit faire.
Alors, est-ce que l'incendie social guette, en tout cas Emmanuel Macron est à la manœuvre ce soir? On en reparle avec les grandes voix dans un instant. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h et vous nous appelez. On est en ligne avec des auditeurs aussi. Votre grand journal du soir en direct jusqu'à 20h sur Europe 1. Grand journal du soir dominé par ces 4 fonctionnaires tués, l'agresseur abattu après cette attaque en préfecture de police de Paris en début d'après-midi. On va y revenir longuement à 19h. Mais il y a aussi les retraites avec Emmanuel Macron qui reprend la main ce soir à Rodez. Il joue en quelque sorte les prolongations du grand débat. Barbara nous appelle de Paris. Bonsoir Barbara. Vous êtes vous-même avocate et vous êtes descendue dans la rue, on s'en souvient. C'était pour le moins inédit il y a à peu près 15 jours de cela.
Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas l'habitude de manifester et cela me paraissait très important d'être avec mes confrères dans la rue pour contester ces mesures difficiles pour beaucoup d'avocats.
Vous n'avez pas été rassurée quand Jean-Paul Delevoye a dit « mais c'est un malentendu sur les conséquences de l'intégration du régime des avocats, c'est la crainte d'une baisse de pension, etc., le doublement des cotisations, c'est pas exactement ça ?» Vous n'y croyez pas un seul instant aujourd'hui ?
Non, je n'y crois absolument pas, tout simplement parce que ce sont souvent des discours que l'on entend, mais la réalité est tout autre. Nos charges, nos contraintes administratives ne font que s'alourdir, hein, qu'on soit avocat ou médecin ou d'autres professions. On va toujours vers le plus, jamais vers le moins.
Opération clarté d'Emmanuel Macron, bis repetita, si je reprends la pensée de Charles Villeneuve et le propos de Charles Villeneuve. Opération transparence, opération clarté encore à Rodez ce soir. Ça ou rien, c'est pareil ?
Oui, pour moi, le problème, c'est plutôt d'avoir, en dehors du discours et des paroles, hein, c'est très louable d'écouter les citoyens, et tant mieux, mais il faut vraiment des choses très concrètes, et il faut aussi écouter les instances, écouter la souffrance également dans certaines professions, notamment, encore une fois, les médecins ou les avocats, qui ont souvent des journées de travail à rallonge et des semaines de moins 50 heures, et une pénibilité surtout qui s'accroît d'année en année. Hein. On est sur quelque chose de très lourd.
Merci Barbara de nous avoir contacté au 3921. Jean-Sébastien Ferjou, Charles Villeneuve, Philippe Gouillot. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que, je posais la question juste avant la pause, l'incendie social guette la Rodez? Ce sera une seule, une première étape, mais on n'a pas fini de faire le tour de France pour Emmanuel Macron sur les retraites.
Il y a incontestablement un enjeu délicat pour Emmanuel Macron parce que ça n'est pas déterminé. Charles Villeneuve parlait tout à l'heure du flou qui peut exister dans la tête du président de la République, mais il y en a certainement un dans celle des Français aussi à propos de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une majorité de gens qui sont en faveur d'une réforme jusqu'au moment où ça les concerne véritablement eux et où on pose des questions plus précises. Donc il y a une majorité qui ne soutient pas vraiment la mobilisation. Mais on se souvient aussi que sur des dossiers qui concernent une minorité de Français, parce que les régimes sociaux, ça concerne finalement une minorité de Français, ce sont bien souvent des gens qui travaillent soit dans des entreprises publiques, soit dans les services publics, parce que enfin, les fonctionnaires ne relèvent pas d'un régime spécial en tant que tel. Mais ça va être ça le gros enjeu de la réforme des retraites. Et il se trouve qu'en France, dans la tête des gens, la grandeur de la France, la puissance de la France, elle est liée à l'État. Et donc, c'est là où tout le discours que tiennent les politiques, ou que va tenir le gouvernement en l'occurrence, peut se révéler, enfin faire basculer la réalité dans un sens ou dans l'autre. Alors sur la réforme de la SNCF, ça n'a pas basculé en faveur des syndicats de la SNCF, mais en 1995, c'est ça qui s'était passé. Parce qu'au début de la crise de 1995, les Français étaient dans leur majorité en faveur de la réforme des retraites. Et puis à un moment, les syndicats ont réussi à alimenter l'idée que cette réforme-là, elle allait mettre à bas le service public. Et dans la tête des gens, si on met à bas le service public, on met à bas le système social français et on met à bas la grandeur de la France, ce qui est éminemment contestable dans le raisonnement, mais enfin c'est la mécanique en quelque sorte sur laquelle s'articule l'opinion.
43% des Français restent opposés à cette réforme qui vise à fusionner ce système unique par points, les 42 régimes existants à l'horizon 2022. L'explication, quand on est dans ce climat de défiance aujourd'hui des Français depuis la crise des Gilets jaunes, là ces derniers jours à Rouen, on voit que ce président, est nu en face des Français quand on est dans ce dossier des retraites.
Bien, ce qu'on peut dire, c'est que au début du quinquennat, on a manqué beaucoup de pédagogie, qu'on avait l'impression qu'effectivement les décisions tombaient du ciel, arrivaient tout droit de l'Élysée, et qu'il n'y avait pas de service après-vente. Ça tenait au fait aussi que les nouveaux députés ne connaissaient pas encore le job, que les ministres n'avaient pas un grand poids politique, ou en tout cas une implantation politique, et donc on avait l'impression que c'était Emmanuel Macron qui devait s'y coller. Et là, pour cette réforme qui, je le répète, est quand même essentielle, qui est très douloureuse probablement pour beaucoup de gens et qui va leur demander des efforts. On a bien vu ce que disait votre interlocutrice avocate, elle n'a pas confiance. Donc il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et au fond, moi je trouve que le fait de lancer un très long débat et de revenir là maintenant dans le cadre d'explication,
c'est peut-être pas mal. La pédagogie sur les professions libérales, je pense qu'ils pourront faire autant qu'ils veulent, c'est une cause perdue. Enfin, c'est un régime qui a l'équilibre, qui est excédentaire.
Oui, mais
on va piquer de l'argent dans les caisses pour le mettre dans d'autres caisses moins bien gérées. Donc
peut-être quand même qu'il faut
toute
expliquer
la pédagogie
les
du monde. Sera...
Ça touchera peut-être pas les personnes directement concernées, mais peut-être que les autres Français comprendront.
Si Charles, le mot de la fin.
Oui. Non, mais si vous voulez, Nathalie, à l'heure actuelle, quelle est l'alternative? La rue. Et donc, il se méfie justement, parce qu'elle peut venir de la rue, c'est-à-dire que cette mère des réformes, comme tu le disais, finalement, peut coaguler justement toutes les oppositions.
Et c'est pour ça d'ailleurs que Philippe Martinez, par exemple, a dit ce matin, on travaille sur des mobilisations, des grèves interprofessionnelles, le secrétaire général de la CGT. On voit bien donc qu'on ne se démobilise pas. Emmanuel Macron à Rodez, c'est à vivre évidemment dans nos journaux et notamment avec celui de Sébastien Krebs. Dans quelques instants, le grand journal du soir qui se poursuit sur Europe 1.